L'enfer attend. Alors que le train 4297 quittait la gare de Portsmouth, dans le New Hampshire, à destination de Stourbridge, Madame Sixby étudiait les dossiers et les niveaux de BDNF de deux enfants qui résideraient prochainement à l'Institut, un garçon et une fille. L'équipe Rouge Ruby devait les amener un peu plus tard dans la soirée. Le garçon, âgé de 10 ans, venait de Sault Ste. Marie et atteignait seulement les 80 sur l'échelle du BDNF. La fille, 14 ans, venait de Chicago. Elle atteignait les 86. D'après son dossier, elle était autiste, une source de complications pour le personnel et les autres résidents. Si elle avait été en dessous de 80, sans doute ne l'aurait-il pas choisie. Mais 86, c'était un score exceptionnel. BDNF signifiait « facteur neurotrophique dérivé du cerveau ». Madame Sixby ne comprenait pas grand-chose à ces considérations purement chimiques. C'était le domaine du docteur Hendrix. Mais elle saisissait l'essentiel. À l'instar du TMB, le taux métabolique de base, le BDNF était une échelle. Il mesurait la croissance et le taux de survie des neurones à travers le corps, et plus particulièrement dans le cerveau. Les rares individus qui possédaient des niveaux de BDNF élevés, moins de 5% de la population, étaient les plus heureux au monde. Hendrix affirmait qu'il représentait ce que Dieu avait en tête quand il avait créé les êtres humains. Il souffrait rarement de trous de mémoire, de dépression ou de douleurs neuropathiques. Ils étaient généralement épargnés par les problèmes d'obésité ou de sous-alimentation extrême qui frappaient les boulimiques et les anorexiques. Ils socialisaient aisément avec les autres, à l'exception de la future pensionnaire. Ils avaient une propension à arrêter les conflits au lieu de les provoquer, Nick Willholm étant une autre exception. Ils étaient très peu sensibles aux névroses du style trouble obsessionnel compulsif et possédaient une forte capacité de raisonnement verbal. Ils avaient rarement la migraine et leur taux de cholestérol demeurait bas quoi qu'ils mangent. Dans l'ensemble, ils avaient des cycles de sommeil inférieurs à la moyenne ou irréguliers, mais ils compensaient ce manque en faisant des siestes plutôt qu'en avalant des somnifères. Sans être fragile, le BDNF pouvait cependant être endommagé de manière parfois catastrophique. La cause la plus fréquente était ce que Hendrix appelait l'encéphalopathie traumatique chronique, l'ETC pour faire court. Autant que pouvait en juger Madame Sixby, cela s'apparentait à une bonne vieille commotion cérébrale. Le BDNF moyen était de 60 unités par millimètre. Chez les joueurs de football américain qui pratiquaient ce sport depuis 10 ans ou plus, on tournait autour de 35 et on atteignait parfois les 20. Le BDNF baissant lentement avec l'âge, beaucoup plus rapidement chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mais tout cela importait peu à Madame Sixby, à qui on demandait simplement d'obtenir des résultats. Et depuis qu'elle dirigeait l'Institut, les résultats étaient bons. Ce qui lui importait, en revanche, comme à ceux qui finançaient l'Institut et avaient réussi à garder son existence secrète depuis 1955, c'était que les enfants dotés de BDNF élevés possèdent également certaines capacités psychiques, TK, TP, ou, cas rare, un mélange des deux. Les enfants eux-mêmes n'avaient parfois pas conscience de leurs dons, car ceux-ci étaient souvent latents. Ceux qui savaient, généralement des TP à haut niveau de fonctionnement comme Avery Dixon, pouvaient à l'occasion utiliser leurs talents quand cela leur semblait utile, mais la plupart du temps, ils les ignoraient. Presque tous les nouveaux-nés subissaient un test de BDNF. Les enfants tels que ceux dont Madame Sixby consultait les dossiers présentement étaient repérés, suivis et finalement enlevés. Leur capacité psychique, encore réduite, était affinée et améliorée. D'après le docteur Hendrix, ces talents pouvaient également être développés en ajoutant la télékinésie à la télépathie, ou vice-versa, même si ce développement n'influait en rien sur la mission de l'Institut, sa raison d'être. Les quelques succès qu'il avait rencontrés avec les roses qu'on lui avait confiées comme cobayes ne seraient jamais consignés. Elle était sûre que Donkey Kong s'en désolait, même s'il savait que toute publication dans une revue de médecine l'enverrait dans une prison de haute sécurité au lieu de lui valoir le prix Nobel. On frappa quelques petits coups rapides à la porte, de pure forme, et Rosalind glissa la tête à l'intérieur du bureau avec l'air de s'excuser.
« Pardonnez-moi de vous déranger, madame, mais il y a Fred Clark qui demande à vous voir. On dirait qu'il... »«
Rafraîchissez-moi la mémoire. » « Qui est Fred Clark ?»
Madame Sixby ôta ses lunettes et se massa le nez. Un des agents d'entretien.
Essayez de savoir ce qu'il veut et venez me le dire. Si c'est encore un problème de souris qui grignote les fils électriques, ça peut attendre. Je suis occupé.
Il dit que c'est important. Et il est dans tous ses états.
La directrice soupira, ferma le dossier et le rangea dans un tiroir.
Très bien, envoyez-le-moi. J'espère que c'est du sérieux.
Ça l'était. C'était même très sérieux.